Eh bien c'est parti, Mika Gridviken, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tué, on a dit qu'on se tutoyait, on va bien commencer l'interview. Tu es dans le studio de Radio Campus Tours pour nous parler musique et plus précisément d'un album que tu vas bientôt sortir. Alors, et avant d'évoquer évidemment cet album, etc., est-ce que tu peux parler de toi et te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Mika Gridviken, je suis né dans le Loir-et-Cher, 1971, voilà, ça va vous donner un petit peu une idée d'où j'arrive. j'ai grandi et trempé dans la musique depuis mon enfance. Ma mère avait une collection de vinyles assez importante et j'ai passé beaucoup de temps à les écouter déjà avant même de réellement faire de la musique. Voilà, j'ai découvert tout un tas de choses par le biais de la radio aussi. J'étais un féru des émissions nocturnes sur RTL, France Inter et compagnie dans les années 70 et 80, pas mal. Je me suis investi très sérieusement dans la musique à partir de la fin des années 80, où j'ai fait pas mal d'instruments différents, hein. J'ai commencé par le clavier, je fais de l'harmonica, j'ai fait des instruments avant aussi, j'ai joué dans une fanfare. Et puis j'ai monté mon premier groupe de rock avec mes potes, un petit peu comme tout le monde. À l'époque j'étais plutôt claviériste et chanteur. Et c'est un copain dans ce groupe qui a commencé à me montrer sa guitare, comment ça marchait, etc. Et puis je suis tombé dedans et aujourd'hui je fais quand même plus de guitare que de tout le reste. Voilà. Et puis pas mal de chants. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait pas mal de projets entre la Touraine, début des années 90, Nantes, fin des années 90, début 2000. Et puis du début 2000 jusqu'à 2011, j'étais dans les Caraïbes où j'ai fait aussi que de la musique.
En Martinique, c'est ça?
Ouais, en Martinique précisément. Ouais. Enfin, voilà, après, j'ai été un petit peu joué dans d'autres endroits. Mais effectivement, j'ai vécu en Martinique.
Et qu'est-ce que ça a changé, ça, ces voyages sur ta musique? J'imagine que ça a évolué ta façon de jouer aussi.
Ah ouais, énormément, ouais. Bon, en fait, en même temps, je suis pas arrivé en Martinique par hasard, hein. C'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup vécu avec la communauté afro-antillaise et africaine aussi. Donc déjà avant, quand même, j'étais très sensibilisé aux musiques, on va dire, afro-américaines et africaines. Et puis pour dire les choses aussi entièrement, hein, mon épouse est martiniquaise. Donc partant de là, j'avais quand même déjà aussi beaucoup trempé dans la culture on va dire afro. Et puis là-bas, oui, ça a énormément changé ma musique. Quand je suis arrivé là-bas, en fait, le premier groupe dans lequel je suis rentré était dirigé par un percussionniste, d'ailleurs que je peux nommer, il s'appelle Patrick Lafrontière, qui est un monsieur très très talentueux d'ailleurs. Et en tant que percussionniste, il m'a mis à la page tout de suite, quoi. C'est-à-dire que là-bas, le monde du rythme, c'est un autre univers. Et en fait, même si déjà en soi, dans la musique, le rythme, c'est le squelette de la musique, c'est l'architecture centrale. Ça l'est encore plus en fait quand on commence à rentrer dans les musiques africaines, afro-caribéennes, cubaines, brésiliennes, etc. Et ça change énormément de choses en fait. Et ça apporte un regard très différent sur la musique. Et un peu en même temps, ce qui l'intéressait aussi en me faisant rentrer dans son projet, c'était aussi de profiter un petit peu de tout ce qui fait ma culture occidentale aussi. Et puis aussi, en fait, une grosse culture blues et jazz. En fait, la base, c'est énormément le blues et le jazz qui m'ont attiré. Même avant même de faire de la guitare, quand je faisais du clavier, j'étais énormément attiré par le blues et le jazz. Mais à l'époque, mes claviéristes de prédilection, c'était Eddie Lewis, Jock McDuff,
Jimmy Smith,
voilà, etc. Voilà, donc Stevie Wonder, Ray Charles, c'était des gens qui m'influençaient beaucoup. Et quand je suis passé dans le monde de la guitare, ça a continué, sauf qu'après j'ai été un petit peu plus tendre vers les artistes qui ont travaillé avec ces claviéristes là, des gens comme Larry Carlton, B.B. King, après il y a plus dans le blues aussi des gens comme Stevie Ray Vaughan, le monde d'Hendrix. Mais aussi l'univers de Miles Davis aussi, qui a fait souvent appel à des guitaristes de blues, en particulier à partir de la fin des années 70 et début des années 80, où il y a eu beaucoup de guitaristes d'influence à la fois blues et jazz qui sont rentrés dans ces projets.
Et alors, tu l'as dit, tu es parti évidemment en voyage, et en tout cas en voyage musical, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et tu reviens en 2012 pour fonder The Soulagers.
Voilà. Alors,
je m'excuse pour la prononciation.
Oui, c'est pas grave. C'est The Soulagers, ouais. Alors, en fait, oui, je suis rentré fin 2011, au mois de décembre. Pour nous donner un petit peu l'ambiance chaud froid.
Ah oui, ça a dû être rude.
Et donc courant 2012, parce que comme j'avais quand même pas mal travaillé en Touraine fin 80 début 90, j'avais gardé pas mal de contacts, en particulier un ami batteur à qui j'ai dit bon écoute je vais rentrer, et il m'a dit on remonte le groupe. Voilà, un peu comme les Blues Brothers, quoi. Et du coup, on a remonté un projet ensemble. Hein, on a monté The Soulagers, qui est un projet donc d'orientation jazz and soul pour l'essentiel, avec quelques reprises aussi pop californienne et la tendance un petit peu plus bluesy. Mais l'idée des Soulagers, c'était de prendre des titres soit de pop, soit de soul, soit de jazz, mais de les remodeler complètement. Donc en fait, la plupart du répertoire des Soulagers, c'était des reprises, mais complètement réarrangées. C'est-à-dire qu'on reprenait un titre de jazz, genre Summertime, mais on en faisait un funk, par exemple. Voilà.
Aujourd'hui, tu fais toujours partie de ce groupe, de ce band ou...
Alors, The Soulagers a pris fin dans le courant 2017. C'était une très belle aventure. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à The Soulagers. La structure centrale, c'était le batteur, donc mon ami batteur Pascal Godet, d'ailleurs, que je peux nommer, qui est un très très bon batteur et un très très bon ami. Et donc, on était un petit peu la structure centrale tous les deux. Hein. Et puis, autour de cette structure, il y a eu des différents musiciens d'amis et pas mal de changements de chanteuses aussi. Parce que les gens vont de projet en projet, les gens bougent, des fois ils ont une vie ici, puis un jour ils s'en vont, etc. Et après environ 5 années à faire tourner ce projet, j'ai senti que lors de l'annonce de la chanteuse que nous avions à ce moment-là, Aurélie Marie-Louise, très très bonne chanteuse d'ailleurs aussi au demeurant, qui est partie s'installer du côté d'Angers. Du coup, je me suis dit, bah, les Soulagers, peut-être que je vais arrêter. Là, j'ai plein de compositions qui attendent dans mon ordinateur, entre autres, plein de maquettes. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de concrétiser un album personnel.
En tout cas, je te propose, avant d'écouter évidemment un peu le teaser de ce que va être cet album et qui va sortir d'ailleurs bientôt, tu vas nous en parler un peu plus tard dans l'émission, je te propose d'écouter un petit morceau de It's Alright Master. Donc ça a été fait avec les Soulagers, c'est ça?
Ouais, en fait, ouais, bah, il y a marqué Master parce qu'en fait, c'est la version masterisée. c'est pas grave. Le titre s'appelle It's Alright, voilà, et c'est une composition que j'avais écrite il y a déjà pas mal d'années, que d'ailleurs j'avais déjà joué sur scène avec un autre groupe il y a longtemps, c'était fin des années 90, sur Tour aussi, c'est un groupe que j'avais, et puis qu'on a remis au goût du jour avec The Soulagers, donc une composition qui s'appelle It's Alright.
Eh bien, on écoute ça et on revient tout de suite après, c'est parti. Thank you. It's Alright et non It's Alright Master, je ne ferai plus l'erreur. On est de retour sur Radio Campus Tour et on vient évidemment d'écouter un titre de The Soulagers qui sont représentés aujourd'hui, bien que le groupe ait disparu, par Mika Gridviken qui est toujours avec nous dans le studio. J'aimerais qu'on rebondisse sur ce qu'on a dit finalement en antenne sur ta collaboration avec la chanteuse ivoirienne Christina Go. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, alors Christina Go, c'est une très très belle histoire. En fait, on était fait vraiment pour se rencontrer. Parce que Christina Go, alors elle est d'origine ivoirienne par son père, mais d'origine martiniquaise par sa mère. Et Christina, bon, elle a fait ses études à Paris, elle a fait des études en journalisme, mais elle a grandi essentiellement en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu des événements fin des années 2000 en Côte d'Ivoire assez dramatiques. Et du coup, elle est rentrée officiellement sur le territoire français, mais elle est rentrée en Martinique en fait avec sa famille. Et elle avait le même manager que moi là-bas. Et ceci dit, on a entendu parler de l'un de l'autre, mais on s'était jamais rencontrés. On avait joué dans les mêmes endroits, etc. Pourtant, l'île est petite et habituellement, on a l'habitude de dire que là-bas, tout le monde connaît tout le monde. Et dans les faits, en général, c'est ça. Mais il s'est fait qu'on ne s'est jamais directement rencontré. Et elle a de la famille sur Tours, puisque sa maman est écrivain. Et sa maman habite à Tours. Et elle est rentrée en Touraine en 2010 et moi j'y suis rentré donc comme j'ai dit tout à l'heure en 2011. Et à un moment ou à un autre elle cherchait des personnes pour collaborer avec elle parce que c'est une personne qui aime beaucoup travailler par collaboration. Et c'est ce qui fait sa richesse au-delà même de la qualité de ses textes, de ses chansons, de son approche personnelle, etc. Mmh. Mais en plus elle aime beaucoup collaborer et elle sait vraiment très très bien le faire. Et du coup c'est comme ça qu'elle m'a contacté et on a collaboré ensemble pendant 2 années. J'ai participé à l'enregistrement et à l'arrangement d'un de ses EP qui s'appelle Invisible, où sur lequel j'ai arrangé 2 titres. Le titre justement Invisible et puis le titre je sais plus, c'est bête, hein. On cherche, plus je vais chercher, moins je vais trouver. Mais ça va me revenir tout à l'heure. Et du coup, voilà, et on a collaboré pendant un moment. J'ai eu même l'occasion d'aller jouer jusqu'au Canada avec elle, parce qu'on a fait un certain nombre de scènes ensemble. Et ça a été une expérience vraiment très sympa, très enrichissante, et voilà, ce qu'il faut souligner, parce que c'est un moment assez important de ma vie.
Et donc une collaboration qui a duré donc, de 2013 à 2015, en fait.
Oui, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
On va parler évidemment maintenant de ton projet, du nouvel album qui va sortir. Alors c'est encore un peu secret. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là ? Commencer oui. Peut-être par l'histoire de ce projet, comment t'en es arrivé déjà à vouloir faire quelque chose seul, etc.
Alors bon, en arriver à vouloir faire quelque chose seul, c'est déjà parce que j'avais quand même pas mal de matériel d'enregistrer au niveau maquette. J'avais beaucoup de compositions. En fait, même si j'ai énormément collaboré avec les gens, parfois j'ai composé aussi pour ou arrangé pour d'autres personnes. Et du coup, avec le temps, on compose. Et puis à un moment, on se dit, ah, mais j'ai tout ça. Ça serait peut-être bien qu'aujourd'hui, j'en profite et que je fasse quelque chose avec ces compositions. Et puis c'est des tournants dans la vie. C'est justement les Soulagers qui demandaient un petit peu justement à tourner la page. Peut-être une certaine maturité, à un moment ou à un autre, peut-être qu'on se sent prêt aussi de le faire. Et puis une histoire derrière moi qui est rattachée un petit peu à toutes ces chansons. Et qui demande à être raconté. Voilà. Et puis, de là, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que j'avais, à choisir des titres et à me dire, mais oui, effectivement, il y a une histoire à raconter, il y a des choses. Et puis, en même temps, il y a des petits événements dans la vie qui, des fois, même ne sont pas du tout reliés à la musique et qui nous disent, tiens, tu vois, ça, c'est à mettre en relation avec tes chansons, avec ton album, avec ton histoire. Et c'est un petit peu ce que je voudrais raconter là, justement, c'est un petit peu l'origine du titre de l'album. L'album s'appellera Corporation Long Stay.
Ok.
Et en fait, ce titre vient d'un petit événement assez rigolo qui m'est arrivé en Angleterre. où j'étais en train d'accompagner en fait une classe de collégiens en Angleterre, comme ça m'arrive de le faire de temps en temps, parce que j'aime beaucoup être avec les collégiens. C'est très sympa, c'est très rafraîchissant et c'est très enrichissant, quoi. Et du coup, on était à Rochester. Et sur un parking, là où on allait pour récupérer le bus qui nous attendait, en fait, il y avait un panneau qui indiquait justement le parking pour les bus des sociétés pour les longs séjours. Et ce panneau était cassé, tombé et était par terre. Et je suis passé devant ce panneau et là je me suis dit, mais ça c'est le titre de mon album. Voilà. Et ce panneau je l'ai gardé en souvenir parce qu'il était cassé, il y en avait un œuf demi en remplacement. Et du coup je l'ai gardé et je l'ai ramené avec moi comme souvenir. Et voilà, et il est à la maison.
Et ça devient le titre et c'est le symbole le finalement.
Ouais, voilà, ça raconte un petit peu tout ce que je dis aussi dans mes chansons. Et à travers les styles musicaux aussi, en fait, parce qu'au-delà même des paroles qui parlent de plein de choses au sujet de la vie en général, les musiques aussi elles-mêmes, en fait, sont assez variées, même s'il y a une base qui est blues et jazz assez importante. Dans tout ça aussi, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus influencés par les rythmes de la Caraïbe ou par les rythmes du Brésil, d'autres morceaux qui vont être très blues, d'autres qui vont être un petit peu plus pop californienne, d'autres qui vont tirer un peu plus sur le funk, mais avec des harmonies blues, etc. En fait, il y a tout un métissage musical qui est en relation, en fait, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai commencé à faire de la musique pour moi et pour les autres.
Et qui est rentré, du coup, bien dans le titre Corporation Longstay.
Complètement, voilà. Ouais. Ouais.
Alors, une particularité de ce projet-là aussi, c'est que tu vas mettre en place un crowdfunding pour financer tout ça. Qui commence le 19 février, si je ne me trompe pas dans les dates.
Alors voilà, je veux le faire démarrer le 19 février. Normalement, il va démarrer le 19 février. Oui, après, aujourd'hui, ce n'est pas tellement une exception. Il y a beaucoup d'artistes indépendants qui sont obligés de passer par ce qu'on appelle en français le financement participatif pour réussir à financer un projet parce qu'on n'a pas tous un label derrière nous ou ne serait-ce même une société d'édition. Et partant de ça, il faut trouver des fonds parce que voilà, même en étant musicien ou même des fois en ayant un autre boulot à côté aussi pour réussir à mettre du beurre dans les épinards comme on dit, on n'a pas généralement les moyens financiers pour vraiment financer un projet comme ça. Donc l'idée c'est de lancer un financement participatif, c'est-à-dire que c'est une forme de mécénat. Avec quand même des contreparties. En l'occurrence, pour ma part, je le ferai sur Ulule. Mais on peut le faire sur d'autres. Hein, chacun fait ses choix.
Voilà,
y a pas énormément de plateformes en France. Hein, officiellement, il y en a trois, deux françaises et une qui est plutôt d'origine américaine. Et après, voilà, il y en a peut-être pas une qui est vraiment meilleure que l'autre, mais chacun fait son choix par rapport à ses besoins, ses demandes, ses attentes, etc. Quoi. Et l'intérêt là-dedans aussi, c'est qu'on crée un échange avec notre public. Parce que c'est pas un simple mécénat du style bon, moi je te donne tes sous puis tu fais ce que tu veux avec quoi. C'est qu'en fait on essaie d'impliquer le public dans ce qu'on fait et puis en même temps aussi on propose des contreparties, c'est-à-dire que celui qui va mettre une certaine somme il pourra s'assurer de toute façon d'avoir l'album en MP3. À partir d'une certaine somme il pourra s'assurer d'avoir l'album matérialisé sous forme d'un CD, etc., etc. Et donc on propose des contreparties partie en fonction de l'aide aussi que la personne au niveau de la participation de l'aide qu'on aura eue, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est un système aussi qui est sympa parce que du coup ça ouvre une forme de dialogue et d'échange avec le public qui pourrait être intéressé par le projet.
Est-ce que tu as déjà une idée finalement de combien ça va coûter et combien tu vas demander aussi dans le financement participatif ?
Alors,
parce que évidemment, ça a un coût, hein, tout
ouais,
ça.
Ouais. Alors oui, j'ai une idée assez correcte de ce que ça va coûter parce que je fais des devis. Je fais un peu le tour des studios et je fais des devis. Suivant le studio, le niveau, etc. Bon, les devis changent un peu, mais en général, les studios de toute façon qui se trouvent dans la région et qui sont connus sont des studios qui travaillent bien. Il y en a déjà un certain nombre que je connais pour avoir fait des choses en collaboration ou ne serait-ce même des gens qu'on connaît parce que souvent ils font aussi studio de répétition. Donc, mais après, il y a certaines variantes dans les tarifs. Mais il est évident qu'aujourd'hui, avec moins de 3000 euros, on fait quasiment rien, quoi. Après, ce que je peux envisager de faire aussi dans ce financement participatif, c'est proposer en fait des paliers. C'est-à-dire que expliquer aux gens que voilà, à partir de telle somme, je pourrais faire ceci, cela, je pourrais éditer ceci, éditer cela, aller dans tel studio ou pas, etc. Et au-delà de cette somme, je pourrais faire plus. Tiens, bah, je pourrais peut-être faire un vidéoclip qui sera peut-être plus intéressant, ou peut-être ne pas en faire parce qu'on n'aura pas dépassé ce palier. Arriver à ce palier-là, ah bah, je pourrais peut-être aller dans un studio plus renommé avec
faire un travail expérience,
voilà, ou peut-être avoir un meilleur master, etc. Aussi parce que le mastering est une étape qui est aussi très importante dans la finalisation d'un album. Enfin voilà, donc il y a tout ça un petit peu à expliquer aussi en fait, c'est des choses que j'ai envie d'expliquer, de montrer aux gens pour que les gens y voient un petit peu plus concrètement aussi qu'est-ce que ça représente la création d'un album. Déjà il y a la partie toute créative qui est plutôt intime en général, mais après il y a tout aussi la partie enregistrement, masterisation, la partie communication, il faut faire de la vidéo, il faut créer de l'événement, etc. Voilà.
Alors ça c'est le financement participatif, donc on le rappelle, qui démarrera le 19 février sur Ulule. Quelles sont les prochaines phases après de la sortie de cet album, et les prochaines dates à retenir?
Alors les prochaines dates à retenir, si tout se passe comme prévu, dans un timing un petit peu serré d'ailleurs, mais je pense que c'est toujours bien aussi de se mettre ce qu'on appelle les deadlines, et puis de se mettre une certaine pression pour finaliser les choses, parce que si on pose rien, on va jamais au bout. Donc démarrage du financement participatif le 19 février. On doit là faire un petit teaser avec donc de la vidéo pour annoncer ça, et en même temps pour annoncer une répétition publique qui aura lieu donc le 16 mars à Hendrick Music à Saint-Cyr, qui est un petit peu la dernière ligne droite du financement participatif, puisque j'envisage de le terminer le 23 mars, parce qu'il faut bien mettre un début, bien mettre une fin.
Et oui.
Voilà, il faut mettre un timing là-dedans et organiser tout ça. Donc ça, c'est un peu les éléments principaux. Normalement, donc courant avril, il faut rentrer en studio, enregistrer, mixer, masteriser. Pour pouvoir je crois que c'est, si mes souvenirs sont exacts, parce que j'ai plein de trucs dans la tête, mais ça je peux vérifier. Normalement le 10 mai, suite à une résidence de 3 jours qui aura lieu à l'espace Jean Siana, on doit pouvoir donc organiser un événement aussi, donc un concert qui sera représentatif aussi du coup de ce qu'il y aura sur l'album, et qui pourra éventuellement servir aussi du coup à commencer à distribuer les albums à ceux qui ont participé au financement et qui auront mis la somme nécessaire pour pouvoir avoir l'album. Il y aura peut-être des autographes, des photos, il y aura un certain nombre de choses qui seront offertes à ceux qui auront participé au financement et qui pourront se présenter à ce concert. Du coup, ils seront forcément invités en VIP pour ce concert et auront une entrée gratuite.
Donc là, on est en mai, le 10 mai, c'est ça?
Et là, on est en mai, ouais. Donc okay. Ce serait en fait pour la finalité du projet, en fait, ça se trouverait à ce moment-là, voilà.
Donc d'ici 3 mois.
D'ici 3 mois, voilà. Donc ça fait un timing qui va commencer à...
Serré, un timing serré. Mais d'ailleurs, c'est vrai, la question, elle se pose. Est-ce que t'es prêt, tout simplement, ou est-ce que tu te sens prêt à boucler ça en 3 mois?
Oui, parce qu'on a déjà énormément répété avec le groupe. Et en fait, les 10 titres, là, on est en train de faire ce qu'on appelle le filage. C'est-à-dire qu'on joue les titres, pour les avoir au bout des doigts, en fait, pour pouvoir les jouer sans réfléchir. Voilà.
En parlant de ces titres, tu m'as amené un espèce de pot-pourri avec plein de petites démos de ces titres, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc chers auditeurs, je vais vous laisser avec les 3 minutes pardon, de pot-pourri. Ça vous donnera un peu l'idée de ce que va être ce projet et cet album qui sortira en mai. Et on revient évidemment tout de suite après, c'est parti. We'll be right back.
Lucia, tout simplement. Moi c'est Moon, c'est pas l'Ambéa qui crée séparer nous, c'est ta frontière.
Corporation Long Stay, ça sera le titre de l'album que tu sortiras en mai, Mika, c'est ça ?
Oui.
On le rappelle une dernière fois à nos auditeurs, évidemment, un album qui sortira donc d'ici 3 mois. J'en profite déjà pour te remercier d'être venu nous parler de ce projet et de cet album dans le studio de Radio Campus Tour, et pour aussi donner ton adresse mail, j'allais dire, mais non, pas encore.
Non, flagarde celle-là. Mais en oui, tout cas, merci perso. Aussi à toi pour l'invitation.
Et ben, c'était avec plaisir. Donc pas l'adresse mail, mais l'adresse web, puisque tu as un site internet. C'est www.mikagritviken.net.
Voilà.
Et Mika avec deux K aussi, hein. Je préfère
M-I-2-K-A.
Préciser, ou alors tout simplement sur Facebook, avec une page Facebook, bon évidemment avec d'autres informations que sur le site, peut-être aussi un peu moins complet, mais pareil, Mika Gritviken official,
official.
J'ai un peu de mal avec mon anglais aujourd'hui. Merci beaucoup encore à toi d'être venu
merci aussi.
Ici.